Transhumance, deuxième heure. Toujours en compagnie de M. Aïssani, qui entreprend des recherches dans le cadre de son association sur l'histoire des mathématiques, en relation encore une fois avec la figure de Leonardo Fibonacci, pisan d'origine et bougiot d'adoption, qui transmit les chiffres arabes et autres principes mathématiques en direction de l'Occident. Cette association a découvert, il y a un peu plus de 4 ans, une khazina composée de 500 manuscrits anciens, la khazina du Cheikh el-Mouhoub, à Beni Urtilen. Ces fonds se composent de manuscrits originaires d'Andalousie, du Maroc, d'Algérie et d'Égypte, manuscrits datant pour la plupart du XVIe siècle, dont deux manuscrits de la main de Sidi Abdelrahman Tha'alibi, l'un en linguistique, et l'autre en jurisprudence ou fiqh. Bonne écoute.
Donc, vous êtes à l'université, vous essayez de faire des recherches sur l'histoire un peu des mathématiques. C'est la préoccupation première qui a été l'une des raisons de la fondation de votre association pour faire des recherches de ce type, donc sur des mathématiques, sur les... Vous êtes tombé sur un certain nombre de... Il fallait s'intéresser aux manuscrits. Vous vous intéressez aux manuscrits, pour pouvoir connaître les manuscrits, il faut s'intéresser à l'histoire. Donc c'est une aventure qui, plus vous la vous approfondissez et plus vous rentrez dans la grande histoire.
Oui, il faut s'intéresser aux écrits. Hein. Il faut d'abord s'intéresser aux écrits donc des livres. Et ensuite, après, lorsque on sait ce qui est écrit dans les livres donc, qui sont disponibles, il faut chercher ceux qui ne sont pas disponibles. Hein? Et c'est comme ça qu'on arrive à approfondir nos connaissances sur un certain nombre d'aspects. Par exemple, nous savons qu'il existe de nombreux, nous savons qu'il existe de nombreux manuscrits concernant notre ville, en Italie, en Espagne, au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Il faut pour cela faire un travail d'investigation. Ce n'est pas facile, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Et donc il faut y aller petit à petit.
Et dans votre quête, vous avez pu découvrir, certes, vous avez fait un travail un peu d'archiviste. C'était pas la dimension première qui a été à l'origine de la création de votre association, mais dans ce travail de dépoussiérage, vous avez été amené à faire du catalogage, etc. Vous nous avez parlé un peu des manuscrits, oui, de différentes disciplines que vous avez rencontrées sur votre chemin.
Je pense qu'à l'origine de ces travaux, c'est aussi, il faut en parler puisqu'on a abordé l'aspect des manuscrits, c'est aussi la découverte d'une khazina, donc la khazina du Cheikh el-Mouhoub dans la région de Néo-Tilène.
Oui, la découverte de la khazina de Cheikh el-Mouhoub en 1994 a été une étape importante dans l'orientation de certains travaux de notre association. Pourquoi ? Parce que c'est la première bibliothèque de manuscrits catalogués de la Kabylie. Mm-hmm. Nous avons travaillé pendant des années sur ce projet. Nous avons d'ailleurs obtenu en 1997 le prix de reconnaissance Mouloud Mamri.
Donc c'est un fonds privé pour...
C'est un fonds privé.
Très bien.
C'est un fonds privé. Et pour pouvoir identifier les manuscrits, nous avons fait un travail bibliographique considérable. Mais aujourd'hui, nous avons tout un ensemble d'informations sur le savoir qui était à la disposition des lettrés locaux en Kabylie au XIXe siècle.
Ça donne aussi peut-être un indice de la dimension intellectuelle, même extramuros, au niveau de la région, enfin, de la portée de la dimension intellectuelle, parce que on retrouve quand même une Khazina qui comporte des manuscrits très variés dans diverses sciences, en dehors de la ville, dans un village. C'est aussi oui, peut-être sont... important de, parce de que... l'ambiance de l'époque au niveau intellectuel, encore une fois.
Il s'agit, il faut le souligner, la région de Beni Oukilen est une région de lettrés.
Très bien.
Hein, à l'époque, au XIXe siècle, mm-hmm. n'est-ce pas ? Donc il n'est pas étonnant que cette bibliothèque ait été découverte mm-hmm. Dans cette région. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que c'est la seule que nous avons découverte. Bon, il y en a d'autres manuscrits, enfin il y a d'autres manuscrits qui se trouvent chez des familles. Mais... ce qui est important ici, c'est comment un lettré local, parce qu'il ne s'agit pas d'un lettré qui travaille, enseigne dans une grande zaouïa, etc. Il s'agit d'un paysan qui, en même temps, exerce la fonction d'imam de village.
De qadhi,
etc. Et qui, au XIXe siècle, a constitué une bibliothèque. C'est ça qui est important.
Et grosso modo, l'origine des manuscrits, quelles sont les sphères géographiques ? Enfin, l'origine des manuscrits, les pays
Oui, nous avons fait une étude statistique sur ces manuscrits. Donc d'abord, nous savons quels sont le nombre, par exemple, quel est le nombre de manuscrits de mathématiques, de médecine traditionnelle, de jurisprudence, etc. Nous savons également quelles sont les origines des auteurs. Mm-hmm. En grande majorité, les auteurs sont originaires d'Andalousie, du Maroc et d'Égypte. Mais il y a également ici un certain nombre d'auteurs originaires d'Alger, comme Sidi Abdelrahman Talibi, de Béjaïa, même de Biskra, comme Al-Khadari, etc.
Très bien. Donc la période, c'est entre le XIIe et le XVIe, si j'ai bien compris.
Les ouvrages sont des ouvrages donc, qui datent du XIIe siècle au XIXe siècle. Les copies des manuscrits viennent de manière globale, sont du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec bien sûr une partie du XIXe siècle. Les plus anciens datent du XVIe siècle.
La ville de Béjaïa et sa région, la musique reste incontournable. Et pour ça, nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Imloul Fateh, qui est musicologue et également producteur à la radio Soumam. Le titre de son émission, Diwan Bain al-Maya wal-Mizan. Alors, Imloul Fateh, bonsoir et puis merci d'avoir accepté de venir à notre émission. Alors, l'école de musique andalouse de Béjaïa, on dit qu'elle est identique à celle d'Alger.
Merci. Tout d'abord, je salue les auditrices et auditeurs de la chaîne 3 et tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous ce soir. Mm-hmm. Donc, en parlant de Béjaïa, au regard de l'histoire, a tout le temps été, a tout le temps occupé une place assez importante sur un plan culturel. Donc une place par rapport à d'autres villes maghrébines telles que Fès, Tétouan, Tlemcen, Kairouan et pas mal d'autres villes. Et à titre d'exemple, Bjaïa était considérée à l'époque andalouse, donc sous le règne andalou, comme l'un des principaux centres culturels maghrébins. Donc seulement après la chute de Grenade.
Qu'est-ce que vous appelez période andalouse, monsieur Imloul?
Bon, la période, c'est-à-dire, bon, je parle là strictement sur un plan artistique et même sur un plan un peu plus large, c'est-à-dire que à partir du XIIe siècle, où il y a eu où le Mouachah, qui est quand même une forme poétique post-classique qui a permis l'éclosion et l'épanouissement de la Nouba andalouse. Donc c'est là où le Mouachah et le Zajel ont atteint quand même un niveau très très appréciable dans
le raffinement.
Exactement. Donc à travers les échanges qu'il y avait entre toutes les villes côtières, que ce soit andalouse, en parlant d'Andalousie, ou maghrébine, telle que Bjaïa, qui avait un port dont l'activité était très très importante. Donc,
quasiment un passage obligé dans.
Exactement, ça a favorisé les échanges commerciaux, par exemple. Et ceux qui venaient d'Andalousie ramenaient avec eux leur savoir en matière de musique.
Monsieur Imloul, si vous permettez, oui. Je voudrais savoir concernant, encore une fois, Bjaïa. Bon, on parle de l'école de Constantine, de Tlemcen, d'Alger. Existe-t-il une école de Bjaïa, Yanni, pour lever les équivoques et pour être fixé sur la question?
Le débat d'école.
Oui, les débats d'école, vous savez, il y a des hypothèses qui restent peut-être jusqu'à présent invérifiées. Bon, quand on parle d'école de Grenade, de Séville ou de Cordoue, bon, ça reste quand même au stade de l'hypothèse. Mais en ce qui nous concerne, nous, en Algérie, bon, on parle toujours on fait référence à trois écoles, soit Tlemcen, Alger et Constantine. Et là, sur le plan de l'interprétation, de l'exécution. Et donc, si on parle d'école de Bjaïa, sur ce sujet, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Bon, on peut supposer qu'à l'époque, étant donné que Bjaïa était considéré comme l'un des principaux centres culturels, comme je l'ai déjà dit. Donc, et puisque la musique andalouse a transité par Bjaïa, donc on suppose qu'il y avait une école de Bjaïa. Mais maintenant.
Et quel en est le critère sur le plan du mode ou comment on peut déterminer, la particularité d'une école par rapport à une autre?
La particularité d'une école par rapport à une autre, c'est par rapport. C'est par rapport à
l'exécution.
À l'exécution, uniquement l'exécution, c'est-à-dire le tempérament propre à chaque région, c'est-à-dire même il y a l'élément autochtone qui intervient, il y a la position géographique et le relief de chaque région qui intervient. Mm-hmm. Bon,
disons que c'est une question de tempérament.
Exactement. Tout se joue sur le tempérament.
Très bien. Je sais que c'est le musicologue que l'on interpelle ce soir, mais quand je parlais de rythme en tant que, bien sûr, profane, moi je sais que dans le Malouf, c'est beaucoup plus lent qu'à Alger ou alors à Béjaïa. Mais qui c'est... bon, évidemment, quand vous parliez de Béjaïa, qui a connu des périodes fastes, mais qui s'est approprié à l'autre, puisqu'on parle de trois écoles. Quand on parle d'école, on dit l'école d'Alger. Qui s'est approprié? C'est Béjaïa ou Alger?
Bon, c'est-à-dire que là, ça, c'est tout à fait récent. C'est-à-dire la réponse, on peut la trouver dans l'itinéraire du regretté Sadr al-Bjaoui. c'est lorsque Sadr al-Bjaoui est parti à Alger lorsqu'il a intégré le Mosselia et là où il a connu Mahiddin Lekhal et Mkhilef Bouchara, c'est là qu'il a appris à exécuter la Nouba. La Nouba telle qu'elle est conçue par l'école d'Alger. C'est pour cela que maintenant Bjaïa est lié à l'école d'Alger, au même titre que Mostaganem et Blida.
Donc, M. Imloul, si on fait une petite rétrospective historique pour un peu ouvrir le débat sur notre sujet, on peut dire qu'à l'époque où Béjaïa était capitale et qu'Alger était quasiment une ville de province, donc jusqu'au Mouahidine, on pouvait peut-être parler d'une école de musique de Béjaïa. Et à partir du moment où Béjaïa est devenue une ville secondaire et qu'Alger est devenue la capitale, c'est la capitale qui a été un pôle de diffusion de mode. Et ensuite, au lendemain, au début du XXe siècle, avec les retrouvailles avec ce type de musique, les écoles ont subi les itinéraires de leur chef, quoi.
Exactement.
Vous nous disiez tout à l'heure hors antenne que Sadr al-Bjaoui était imprégné de l'école d'Alger parce que c'était là qu'il avait refait son réapprentissage. Et à un certain moment où il avait fréquenté le maître de l'école de Tlemcen, il s'en était aussi un petit peu inspiré et imprégné. Donc la musique...
C'est une synthèse des deux à la limite.
C'est une synthèse des deux et la musique ne vaut que par l'apport de ces
chaînes.
Alors avant de vous retrouver, M. Imloul, on va écouter un morceau que
vous Qu'est-ce avez que choisi. Vous nous proposez
que vous avez choisi.
Bon, je vous propose un Nqlab Sika précédé d'un Istikhbar Sika, bien sûr. Sika est l'un des modes les plus connus, soit en Andalousie ou en Algérie, soit au Maghreb aussi. Donc c'est le mode qui a fait duquel dérive le flamenco. Donc, et sachant aussi pour les mélomanes avertis que Sadr al-Bjaoui excelle dans l'interprétation de ce mode.
Donc ce morceau est de qui?
Donc c'est un zajel très très ancien
interprété
par Cheikh Sadr al-Bjaoui.
Merci.
تحمل عظيم الذنب ممن تحيي Thank you. في الهوى.
Alors, monsieur Imloul, bien sûr, il est difficile pour nous d'arrêter le grand maître, de l'interrompre. C'est presque du blasphème. Alors, est-ce que vous pouviez nous dire qu'est-ce que c'était comme interprétation?
Bon, c'était un extrait d'un Esterbar Seca.
Alors, puisqu'on parlait du maître, on sait que Cheikh Bejaoui, il était une figure emblématique de la musique andalouse et même du Haouzi. Et qu'a-t-il apporté exactement, vous, en tant que musicologue, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Bon, Sadr al-Bejaoui, c'est pratiquement, quand on parle de musique andalouse ou de Haouzi, enfin de musique citadine à Bejaïa, automatiquement, le repère est Sadr al-Bejaoui, c'est-à-dire... Sadr al-Bejaoui, on peut le comparer un peu au Zeriab de Bejaïa, puisqu'il a pratiquement tout apporté à cette ville en matière de musique, et même dans la musique kabyle, dont on en parlera tout à l'heure. Donc là, il a eu pratiquement le même itinéraire que Zeriab, c'est-à-dire, ayant été à Alger, il revient à Bejaïa, il apporte tout son savoir pour le léguer à d'autres, à ses disciples. Donc, Sadr al-Bejaoui a apporté la Nouba dans sa structure complète à Bejaïa, puisque auparavant, les chanteurs et musiciens qu'il y avait à Bejaïa n'interprétaient pas la Nouba andalouse
dans son intégralité.
Son intégralité. Ils n'interprétaient que quelques nasrafat ou khlasat ou même naqlabat. Donc les pièces les plus accessibles, les plus simples. Et en matière de haouzi aussi, c'est-à-dire il a apporté la rigueur dans l'interprétation du haouzi, la rigueur sur un plan rythmique, mélodique et dans la manière de...
D'interpréter
et le texte et la mélodie. Bien sûr, avant Sadr al-Bejaoui, il y avait quelques maîtres chanteurs et quelques poètes à Bejaïa, puisque l'évolution historique du mouvement artistique à Bejaïa a connu trois ou quatre étapes, bon, jusqu'à présent, bien sûr. Donc, avant Sadr al-Bejaoui, c'était au début du siècle, du 20e siècle. Donc, il y avait quelques poètes, quelques chanteurs qui se manifestaient. Et il y avait aussi l'apport considérable en matière de textes à caractère religieux. C'est-à-dire le madh ou le rahawi, ou bien le qasaïd, voilà, le melhoun, mais à caractère religieux, parce que le melhoun peut revêtir un caractère profane, comme exactement. Donc il y avait quelques confréries religieuses, telles que le Qadriya, le Taïbiya, l'Issaouiya, l'Alaouiya, l'Ammariya, l'Rahmaniya. Chaque confrérie avait son recueil de poésie.
Alors, puisque vous parlez de musique, on va quand même écouter encore de la musique.
Oui, mais avant, je crois que...
Oui,
oui, je voulais avoir quelques noms de, avant Sadr al-Bejaoui, quelques noms d'exécutants.
Oui, bon,
de maîtres, de chanteurs, de poètes.
Oui, il y avait des poètes tels que Ali al-Marabout, Cheikh al-Mosli, Cheikh Mohamed Stambouli. Il y avait des maîtres chanteurs et musiciens tels que Boualem Bouzouzou, qu'on appelle à Bougie Seboualem al-Qadi, dont Sadr al-Bejaoui fut disciple. Et il y a aussi Mahmoud Haddad, dont Sadr al-Bejaoui fut également disciple. Et également, il y a eu il y avait aussi d'autres musiciens. Et il y a eu la naissance ou la création d'une première société musicale à Abjaya en 1927 qu'on dénommait Chabiba.
Et par rapport à la communauté, parce que un peu partout, à Tlemcen, à Alger, la résurrection de la musique andalouse dans sa dimension structurée et structurelle, j'allais dire, était toujours liée à l'apport de la communauté juive. Est-ce qu'à Bouji, à Béjaïa, il y a des liaisons avec des représentants de cette communauté juive?
Non, elle est, Abjaya, elle est liée strictement à l'apport de Sadr al-Bjaoui.
Très bien.
Alors, donc, la musique...
Bien que Sadr al-Bjaoui... Oui, bien
allez-y,
que,
allez-y. Oui,
bien que Sadr al-Bjaoui, je pense qu'a été un peu l'intermédiaire, disons, entre cette communauté...
juive.
Juive, en disant arabo-juive, et cette communauté bougeotte en matière de musique, puisqu'il a été disciple de Mkhilef Bouchara.
Donc, Sadr al-Bjaoui, pour être le grand maître qu'il fut, a été l'intermédiaire entre Béjaïa et Alger, Béjaïa et Tlemcen, Béjaïa et la communauté juive, donc dans cet aspect de création musicale, entre Béjaïa et le Maroc aussi, parce qu'il a beaucoup voyagé au Maroc.
Oui, il a participé à un festival en 1939 au Maroc, oui.
À Fès ou à Meknès.
À Fès, oui. Je pense.
Monsieur Imloul Fateh, quelle relation avait-il, monsieur Sadr al-Bjaoui, avec les confréries religieuses?
Oui, effectivement, puisqu'on vient d'en parler, donc... Sadr al-Bjaoui a puisé tout son répertoire madh, c'est-à-dire texte ou qasidat à caractère religieux, justement de Si'allawa Mhindat et Si'l-Hajmi Mhindat, dont il fut disciple, et qui étaient tous deux Cheikh al-Hadra à la confrérie Taïbiya. Donc c'est là où il a. Pu quand même enrichir tout son répertoire avant de partir à Alger, avant 1933.
Voilà encore que Sadr al-Bjaoui, qui a été un élément un peu de régulation entre toutes les écoles de musique andalouse, qui s'abreuve à une source tout à fait originale au niveau de Béjaïa. Puis tout à l'heure, hors antenne, M. Imloul, en nous parlant des confréries, vous nous en avez cité 7 ou 8 comme ça de tête, c'est-à-dire qu'il y avait à Béjaïa une concentration de confréries qui étaient toutes porteuses de cette tradition de maître assez riche.
Exactement. Mm.
On écoute un autre morceau que vous nous avez si gentiment choisi.
Oui, je vous invite à écouter justement un extrait d'une qasida madh interprétée par un jeune chanteur bjaoui, Nasser Abdel Jabbar.
شوق النادي ما صبت الحر طبيب انا بالله وبالشرع حضر عندي كي ننده بيك ما نخيب غيثني يا تاج الأنبياء الكرام انته الله لا تجوزني في يوم الضيق والزحام تبعت بلي صغرني وفعلت العيب والحرام من صهد النار فكني خايف لا ندخل الحطام قصور من الذهب والفضة تقدي فايق بنيانها عجيب الماء والخمر دافقة كم من ودي ما
كان تحت قصورها سكيب نوع من الطعام صنع الجوادي لا نار الحر هايتيب سيدي محمد يا كان بالله كي ننده بيك ما نخيب للذنوب وترك شهوات دنيتو قرا وتعلم الكتب وعرف ربي وقدرتو محمد راحت القلوب.
Alors je rappelle à nos amis auditeurs que nous sommes avec monsieur Imloul Fater qui est donc musicologue et également producteur à la radio Soumam. L'émission s'intitule Diwan Bin El Maya ou El Mizen. Alors, on va parler de musique qui existe dans Béjaïa et de sa région. Quels genres musicaux quels sont les genres?
Les genres musicaux.
On sait qu'il y a de Kabyle, le Haouzi.
Les plus prédominants, disons. Bon, il y a deux tendances, bien sûr. Il y a la tendance citadine, bien sûr. Il y a la tendance, disons. Je ne dirais pas bédouine, tel qu'on peut le comprendre dans un sens plus large, mais disons. Il y a une...
De la sphère géographique...
Exactement, oui.
Bougiotte,
oui. Donc, il y a deux genres musicaux. Il y a le genre andalou et ses dérivés, quand on dit musique andalouse et ses dérivés, c'est-à-dire haouzi, arobi, shabi. Bon, shabi et mulhoun, bien sûr.
Oui.
Et il y a le genre kabyle. Bon, le genre kabyle, là aussi, il y a le moderne kabyle, il y a la chanson à tendance arabo-orientale sur un plan strictement mélodique, et la chanson à tendance shabi, là aussi sur un plan strictement mélodique. Mais je pense que concernant la chanson kabyle, c'est le style, plus dominant depuis les années 40, à savoir depuis que Sadr al-Bjaoui est revenu à Béjaïa, où il a œuvré à la formation, à l'initiation et à la prospection de jeunes talents. Donc là, il a initié de nombreux chanteurs kabyles tels que Abdel Wahab Abdjaoui,
Jamal Allam aussi, il a été un peu son maître.
Oui, Jamal Allam aussi, dont je disais, El Ghazi, Rachid Benchir et un bon nombre d'autres chanteurs. Mm-hmm. Donc, c'était au début, c'était vers les années 46-47, c'est-à-dire au moment où la radio a ouvert ses portes à Béjaïa.
Oui.
Lorsque Sadr Bjaoui était animateur principal, c'est là qu'il allait essayer de lancer pas mal d'artistes.
Alors on va sortir des générations et des années, puisqu'on va parler de l'an 2000. Est-ce que vous, en tant que musicologue, vous sentez toujours cet engouement pour la musique andalouse à travers donc les associations qui existent? Est-ce qu'on y a toujours, on y porte toujours autant d'intérêt?
Moins d'intérêt quand même, parce que il y a une seule association, donc elle n'a pas de concurrent. Et je pense que quand il n'y a pas de concurrent, on ne peut pas juger...
Elle a le monopole sur toute la région.
Oui. Exactement. Oui. Bien qu'il y a eu, vers les années 80, une association qui a été créée, Nasseria, mais qui n'a, c'est-à-dire l'activité n'a pas trop duré. Il y a eu aussi un festival qu'on essayait d'organiser régulièrement à Bjaïa. Maintenant, ce festival tarde à être organisé. Ça fait depuis deux ou trois ans qu'on n'a pas vu de festival.
C'est-à-dire
de
qu'il y a eu l'absence aussi des festivals qui fait qu'il y a moins d'émulation et moins de... C'est ça?
Exactement, oui.
Et vous êtes musicologue. Est-ce que il vous arrive de aussi producteur, hein, je ne sais pas, de suivre la musique un peu à Béjaïa et toute son évolution, c'est-à-dire la musique moderne? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez dire?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en tant que musicologue, il faut avoir l'oreille tendue partout. Donc, bon, c'est vrai que je suis un peu spécialisé dans le style traditionnel. Mais bien sûr, même le style traditionnel peut évoluer dans sa forme aussi. Donc là, on essaye d'être un petit peu attentif à... aux bonnes choses qui se font ailleurs. Oui, il y a pas mal de bonnes choses qui se font dans la musique moderne, soit...
Si je vous parle de hip-hop et de rap et de... Ça va? Ça vous dit quelque chose?
Ça ne me choque pas, quand même. Non.
Oui, alors, le genre...
Malika pense que tous ceux qui s'occupent de musique traditionnelle, de musique andalouse, sont assez conservateurs. Donc,
conservateurs, oui, on doit...
Là, il a pensé à ma place. Oui. Non, il a pensé à ma place. Écoutez, la musique habile aussi a subi quelques petites misères, on le sait. Alors aujourd'hui, ça va, elle se porte un peu mieux.
Oui, quand même, oui. C'est-à-dire là, heureusement, à Bjaïa, toutes les tendances musicales cohabitent. Donc seulement peut-être, ça peut être lié, on peut être hostile à un certain style par rapport à un autre.
Alors c'est Matoub, c'est Aitmengelet, c'est Idir.
Oui, un peu les trois, hein, et toutes les tendances, même Takfalines, qui est très estimé. C'est-à-dire, chacun a un faible par rapport à un composant de la chanson, soit le texte, soit la mélodie, soit l'arrangement, soit l'interprétation.
Et oui, vous arrivez de chanter, c'est-à-dire de chanter la musique andalouse?
Non, c'est-à-dire je fredonne comme ça chez moi. Ça. Mais...
ça, on n'allait pas vous demander de nous
chanter. Non, on a cappella, surtout pas.
D'accord. Vous jouez d'un instrument?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire je joue à l'utile, à l'agréable pour essayer de justifier un petit peu mes recherches au plan musical. C'est tout.
L'instrument, c'est l'oud ou le banjo type Haj Mohamed Lanka?
Non, c'est-à-dire moi, je suis beaucoup plus porté sur le violon. Puisqu'il a une étendue très très vaste, au même titre que le oud. Et c'est un instrument très très expressif.
En tout cas, merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on reviendra pour parler encore de musique. Et là, vous nous proposez un morceau kabyle, c'est ça? Un chanteur kabyle?
Oui, un élève du regretté Sadr al-Djaoui. Rachid Mencher, qui est très très estimé ici à Bjaïa. Je pense qu'il est l'un des rares interprètes qui ont su quand même tirer profit de leur
de l'enseignement
de Cheikh Sadr Djaoui. D'ailleurs, on va l'écouter dans un texte de Cheikh Sadr Djaoui. Et comme vous le savez, Cheikh Sadr Djaoui a écrit et composé pas moins de 200 œuvres en kabyle. Donc je vous propose ce morceau dans le mode Gharib, qui est un mode andalou, et avec un texte en kabyle.
Alors, merci collègues, que nous sommes travaillant dans la radio. Merci monsieur Imloul Fatah, et puis à très bientôt.
Très bientôt.
الحبب الحبب نلوقفا بدل لي انسان ماشي امسيك امثورا يرقص النصاح غابان الحبب الحبب نلوقفا بدل لي انسان ماشي امسي كام تورا يرقص نصاح غابل حما ولا ندوب فيم شربني قعدان فلاي اش حالك يلا نضا خصيم ومطنو غنسيناي حما ولا ندوب فيم شربني قعدان فلاي اش حالك يلا نضا خصيم ومنطنو غنسيناي اروح ذي دجان قيم اضحكو تيمان نوباي روح ذي دجان قيم اضحكو تيمان نوباي
Au programme de la deuxième partie de cette émission sur Béjaïa, et à partir des hauteurs de cette ville, nous parlerons de Yemma Goulaya. Nous irons à la rencontre de Texera Gomez, qui vécut un exil forcé mais aussi plein de douceur parmi la population de Bougie. Nous parlerons également des 99 walis protecteurs de la ville, sans oublier les moulins de Toudja. Ainsi s'achève la première partie de Transhumance consacrée à la ville de Béjaïa. Rendez-vous lundi prochain à partir de 23h pour la suite de nos péripéties au sein de cette ville. Malika et Hamid se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne nuit. Donc, à la semaine prochaine, Transhumance, tous les lundis de 23h à 1h du matin. Transhumance, une émission conçue et réalisée par Saïd Bouterfa.